Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi matin un peu pluvieux. Nous allons parler de plein de choses, entre autres en deuxième heure d'émission. On va faire une petite décothérapie, ça va nous faire du bien parce que il y en a peut-être qui, avec le soleil des derniers jours, ont entamé un petit ménage du printemps. La décoration intérieure, ça le dit, décorer son intérieur. On va le voir avec Vanessa Sicotte qui vient justement de sortir un livre qui s'intitule « Décothérapie, 50 idées pour se sentir bien chez soi ». On va parler également de cette inquiétante augmentation de la violence chez les jeunes qui sont en couple, les jeunes, là, les ados, les jeunes adultes qui sont en couple et qui disent que malheureusement, il y a une étude qui vient d'être faite là-dessus, on remarque qu'il y a des gestes violents, il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence psychologique, verbale. On va essayer de voir avec des invités comment faire pour que l'amour ne fasse pas mal, surtout quand tu commences ta vie dans une relation. C'est important de comprendre qu'est-ce qui est en jeu. En première heure d'émission, je vais vous présenter à l'instant des invités pour en discuter. Mais vous avez vu cette histoire qu'on parle beaucoup, qu'il y a de plus en plus d'aînés là, qui rendent des logements insalubres. L'insalubrité des logements, en particulier dans les grands centres comme Montréal, entre autres, c'est un problème grandissant. On en a déjà parlé, vous et moi, ici. Et on dirait qu'on n'arrive pas à colmater la brèche. On dirait qu'on n'arrive pas à gérer ce problème-là. Il y a du monde qui ramasse des affaires. Il y a des gens malpropres. Il y a du monde qui s'en foutent. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui ne se souviennent plus de tout ce qu'ils ont ramassé. Il y a toutes sortes de problématiques, en fait. On a beaucoup parlé des aînés, hein, mais je pense qu'on va l'élargir ce matin à toutes les clientèles. Puis on va essayer de voir comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de logements insalubres? Comment ça se fait qu'on dirait qu'on ne s'en occupe pas? Et est-ce la faute des locataires ou bien c'est la faute des propriétaires? Alors, ça tombe bien parce que mes invités ce matin sont bien répartis. Maxime Roy Allard est organisateur communautaire au regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Merci, Maxime, d'être là.
Merci.
Pour Maxime, c'est clairement la faute des propriétaires. Merci d'être là. Andy Brouillette, lui, c'est clairement la faute des locataires, dit-il. Il est directeur des affaires publiques pour la CORPIC, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec.
Bonjour.
Merci, Andy, d'être là. Vous avez vraiment des longs titres, messieurs. Oui. Harold Lévy est entre les deux. Lui, il est sur le terrain, spécialiste en gestion parasitaire chez les entreprises Maillot Extermination. Merci beaucoup, Harold, d'être là.
Ça me fait plaisir.
Bon, alors, je vais commencer par Maxime, parce que, bon, vous vous dites, c'est clairement les propriétaires qui font rien. On l'entend, effectivement. Puis d'une certaine façon, on regarde ça puis on se dit, c'est vrai que s'il y a des logements insalubres, il y a une certaine responsabilité qui doit être prise par les propriétaires.
Exactement. Donc, à Montréal, on a des chiffres. Là, c'est au moins un ménage sur trois qui a au moins un problème d'insalubrité. Et quand on regarde quel genre de problème d'insalubrité les locataires ont, c'est des problèmes de structure. Donc, c'est beaucoup d'infiltration d'eau, des problèmes de moisissure, des problèmes de vermine. Donc, c'est des responsabilités d'entretien de logements qui ne sont pas toujours faits adéquatement.
Genre vermine, souris, rats...
Coquerelles, punaises de lit et compagnie, là.
Ouais. Hans, là-dessus?
Ben, écoutez, les propriétaires vont pas appeler le RACLAC, ils vont appeler la CORPIC. Donc, nous, les appels qu'on reçoit, ce sont des propriétaires aux prises avec des locataires, généralement, qui ont rendu les logements insalubres. Mais faut faire les distinctions.
En
ici,
apportant
là.
Cette vermine, ou comment vous voyez ça? Là?
Ben, écoutez, la vermine,
c'est
normalement,
long, quand
est
même,
attirée.
Amener,
ouais. Oui, elle est attirée par la saleté, par les résidus d'aliments, les poubelles aussi. Donc, il y a des facteurs. Mais regardez, il y a évidemment l'état du bâtiment. Soit le propriétaire est de bonne foi, voudrait l'entretenir parce qu'on sait le parc est vieillissant, mais il n'a pas les moyens, ou soit que c'est de la mauvaise foi, il s'en fout. Donc ça, c'est vraiment, il y en a une minorité, mais il y en a. Mais il y a aussi le problème des occupants, le comportement des occupants conscients, donc des locataires qui sont complètement négligents et on le sait, il n'y a pas de dépôt de garantie au Québec, alors ça accentue le problème,
ouais.
Et des locataires inconscients de l'état dans lequel est leur logement par leur propre faute.
Oui, Harold Lévy, je disais que vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que vous voyez, vous? C'est la faute de qui? Des proprios, des locataires?
Moi, j'ai vu un peu des deux? Moi, j'ai vu des coupables et des victimes sur les deux côtés.
C'est ça, ouais.
J'ai vu des logements, surtout, je sais pas si on va être d'accord avec moi, mais j'ai surtout vu ça dans des propriétaires de très grands ensembles. Où c'est pire qu'ailleurs, où effectivement, on a moins l'impression que le locataire a de l'importance. Dans les petits ensembles, dans les petites maisons, souvent, le propriétaire, c'est aussi son fonds de pension, etc.,
ouais.
Fait qu'il y fait attention. Mais vous savez, à quelque part, souvent, c'est beaucoup plus mêlé que ça. Vous avez, quand on parle d'insectes, entre autres, les insectes sont transportés. C'est sûr qu'au départ, qu'une ville où il y en a de plus en plus, puis où au niveau de la ville, il se fait pas nécessairement ce qui doit se faire, il y a beaucoup plus d'introduction de ces insectes-là dans les logements, propres ou pas propres au départ, propriétaire correct ou pas correct, locataire correct ou pas correct. C'est après que ça se garde, c'est quand le propriétaire s'en occupe pas quand on lui en parle, ou ben non, quand le locataire en parle pas parce qu'il a honte, parce qu'il se sent coupable, parce qu'il y a pas d'allure aussi, ça arrive. Fait que, vous voyez, ça peut être sur les deux côtés. Finalement, je vois des logements insalubres quand on parle d'insalubrité. J'ai vu plusieurs logements où ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le plancher. Je veux dire, là, c'est de l'insalubrité et le propriétaire...
Dû au locataire. Là.
Dû au locataire. Ouais. Il y a des fois où le propriétaire est au courant puis qu'il réagit pas non plus. Il y a des endroits où dans l'immeuble, si je cherchais un coupable, j'en ai deux. J'ai le propriétaire, j'ai le locataire.
Ouais.
Parce que des logements très mal tenus, souvent, les locataires qui vont finir par être dedans, c'est des locataires qui vont finir par accepter de vivre dans ces logements-là. Mais les cas d'insalubrité, moi, que je vois souvent... sont souvent la conséquence d'autres choses. On parlait tantôt de personnes âgées, en perte d'autonomie, la santé mentale. Des phénomènes aussi qui ont amené un grand, grand problème depuis quelques années que je vois de plus en plus, c'est la hausse des prix des logements qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec leurs trois enfants et les meubles qu'ils avaient dans leurs six appartements, dans le toit et demi qu'ils viennent de louer. Ça devient plus complexe là, d'avoir un logement salubre puis de bien l'entretenir. C'est un phénomène qui est extrêmement complexe, puis je pense que le problème, c'est qu'on cherche peut-être trop des coupables. Il faut essayer de trouver des solutions.
C'est ça.
Et les solutions, à mon avis, il faut que la ville s'implique, il faut que les gouvernements s'impliquent, il faut que la santé publique s'implique, il faut qu'il y ait des subventions pour aider des propriétaires, parce qu'il y a des propriétaires. Moi, je connais des propriétaires de petits immeubles qui finalement essaient de ramasser un immeuble et qui sont rendus à la sixième fois qu'ils ont des problèmes de punaises parce que des gens en ramènent parce qu'il y a un ramasseur dans l'immeuble. Le pauvre locataire aussi qui vit dans cet immeuble-là où il y a un locataire qui n'a pas d'allure, il vit les problèmes du locataire qui n'a pas d'allure.
Puis il finit par se faire infester lui aussi.
Il finit par se faire infester puis il finit par le mettre sur le dos du propriétaire. Il y a pas, je suis pas à prédire que c'est un ou c'est l'autre. Ce que je suis à prédire, c'est extrêmement complexe comme problématique.
Ouais.
Et il y a plein, à mon avis, de groupes qui devraient être embarqués au dossier qui y sont pas. Qui sont pas sérieusement.
Ouais.
Je suis pas sûr que pour les autorités des villes, la santé publique, etc., ça a la priorité que ça doit avoir.
Ah ouais. Moi, je pense que la responsabilité de la ville est clairement indiquée ici, mais on la sent pas, là. On sent pas cette prise de conscience. Moi, j'ai eu l'occasion, la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai eu l'occasion de visiter un huitplex. Il y avait 8 logements dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis chaque logement était habité par tous des gens, là, probablement 35 et moins. Tu rentres là-dedans, là, tu n'as pas besoin de faire un tour à la prochaine SAQ là, pour acheter du pot. Là. C'est épouvantable. Là. Fait qu'il y a beaucoup de poteux, beaucoup de gens qui étaient visiblement en plein milieu de journée à la maison en train de regarder la télé. Donc, on suppose qu'ils n'avaient pas de travail. D'après ce qu'on m'a dit, la moitié de l'immeuble, des problématiques de santé mentale. Il y avait un enfant dans ce building-là. Sincèrement, là, ça m'a travaillé toute la fin de semaine. Je me suis dit, il y a une petite fille de 2 ans, là, puis je ne l'ai pas vue pauvre. Elle riait quand on y était. Elle était avec son papa, on m'a dit, elle n'a pas de mère. Bon. Mais là, je me suis dit, coudonc, toutes les prises, là, j'étais avec des inspecteurs en bâtiment, toutes les prises étaient ouvertes avec du 220 comme ça, là, pas de protection, à côté d'entrée d'eau, pas normalement branchée. On m'a dit, ce place-là, c'est un nid à feu, un nid à feu. Genre, ça devrait pas être... Il y a du monde qui vit là-dedans. Puis il y avait le propriétaire, à un moment donné, qui est arrivé, puis on y racontait un peu la vie de son building, puis lui faisait le gars qui avait l'air de rien. Ça va bien, non? Tout va bien. Il dit, bien voyons donc, les gens devraient pas vivre là. On fait quoi avec ça? Comment on gère ça? Harold, envoyez-vous des cas comme ça où tu te dis...
Si je vous disais
ça, c'est un immeuble au complet qui est insalubre. Personne ne devrait vivre là.
Ces cas-là, je vois ça régulièrement. Et c'est
on fait quoi?
C'est presque... Et le mot presque, à mon avis, il est de surplus. C'est toujours dans des cas où vous avez des gens très vulnérables qui sont là.
Clairement.
Vous accepteriez pas. Personne ici accepterait ça.
Il y avait de la moisissure. Noir, là. Noir. Ça, là, ça te rend très malade, là. Dans le faux plafond qui avait été. Puis on avait tout patché, là. C'est épouvantable. Moi, je trouve ça épouvantable, sincèrement. Ça fait trois jours que j'y pense. Puis c'est pour ça que hier, quand j'ai vu là, l'histoire des logements insalubres, puis que, là, qu'on dit, ben, c'est les aînés qui rendent. Moi, je pense que c'est. Il y a bien d'autres problèmes. Il y a bien du monde qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Un propriétaire qui cache la moisissure. C'est quasiment criminel, d'une certaine façon. Là. Parce que les gens, j'en ai fait des reportages avec des gens là, qui ont été malades. Je pense à un, entre autres, là. Daniel. 2 ans et demi en chaise roulante parce qu'il a vécu dans un sous-sol. Bon, c'était dans sa maison, c'était pas la faute de son propriétaire, c'était lui le propriétaire. Mais je veux dire, la moisissure rend malade. Fait que quand tu sais, comme propriétaire, qu'il y en a chez vous, patch pas avec du gyps, là. Fais quelque chose, Maxime.
Mais je suis content
moi, ça me met hors de moi.
Je suis content qu'on parle des autorités politiques ici. Ça fait des années qu'on tape sur la Ville de Montréal. La Ville de Montréal a un très bon
règlement. Ça fait quoi?
Un très bon règlement en matière d'insalubrité des logements. C'est un exemple au Québec.
Ah ouais?
Mais quand vient le temps de l'appliquer, c'est autre chose.
Il n'y a pas d'inspecteur, c'est ça?
La dernière administration, celle de Denis Coderre, est arrivée au pouvoir en disant on va régler le problème des logements insalubres à Montréal. Visiblement, 4 ans plus tard, il n'y avait pas grand-chose qui avait avancé.
Et la nouvelle administration?
La nouvelle administration, il est trop tôt encore pour en parler. Il y a une volonté. Est-ce que sur le terrain, ça va changer? Encore trop tôt pour le règlement de la Ville de Montréal.
Ben, il y a une volonté. Tu sais, quand ils veulent faire quelque chose, ils le font. Là. C'est pas très long de décider ça.
Ben, ils ont engagé plus d'inspecteurs. Ils vont se doter d'un nouveau plan d'action dans les prochaines semaines. On verra. Mais pour revenir au règlement de la Ville de Montréal, il y a des moyens là-dedans coercitifs pour aller à l'encontre des propriétaires délinquants. Donc, on peut donner des amendes. On peut faire les travaux à la place des propriétaires. Souvent, juste la menace de faire les travaux à la place, c'est suffisant.
De la part des locataires. Oui, mais les locataires, Maxime, vous savez mieux que moi, ils sont pas là.
Faire les travaux à la place du propriétaire puis lui refiler la facture.
Oui,
la Ville de Montréal a ce pouvoir-là. La ville peut
faire les travaux à la place.
Peut faire la même chose à la Ville de Québec.
Mais qui appelle la ville? C'est pas les locataires qui vont appeler la ville pour se plaindre.
C'est ça le problème. Ça fonctionne sur un système de plainte. Donc, c'est les locataires qui doivent faire une plainte à la ville. Puis souvent, le suivi est très mal fait. Les locataires déménagent parce qu'ils vivent dans des logements insalubres. Donc, des nouveaux locataires arrivent. Le dossier est fermé. Le propriétaire continue à louer des logements insalubres qui nuisent réellement à la santé.
On m'a dit que dans ce bloc-là, en particulier, ils payent 540$ par mois. Je trouve ça épouvantable. Ça vaut pas 100$, là. C'est épouvantable. Moi, dans ce cas-ci, c'est le propriétaire qui a une responsabilité. C'est bien de valeur, mais faut. Tu peux pas loger du monde dans des conditions comme ça.
Quand il y a question de sécurité, là, sécurité incendie,
sécurité pour
la santé,
il
y a des logements qui ne devraient pas être loués. Il devrait y avoir un avis d'évacuation. Le problème, c'est qu'on les envoie où, ces locataires-là? Donc, est-ce qu'on a des ressources?
Voilà,
alors, la ville est bien du monde, on souhaiterait pouvoir garder les locataires sur place et que les travaux se fassent.
Mais qui paye?
Qui va payer pour les travaux? Donc, est-ce que la ville doit les faire en lieu et place du propriétaire? Pourquoi le propriétaire ne les fait pas, les travaux? Bon, est-ce que c'est des fois, il y a des logements, vous dites, comment ça se fait que les murs sont défoncés, que les fils pendent, puis il y a des gens qui partent avec les fixtures?
Ah oui,
des choses qui sont aberrantes. Il y a des gens qui trafiquent les systèmes électriques. De la moisissure, il y en a aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une laveuse et une sécheuse. Il y a toutes sortes de comportements aussi qui causent l'insalubrité. Alors, j'excuse pas les propriétaires, mais il y a des phénomène qui fait en sorte que même si vous réglez le problème, il va revenir. Ouais. Mais dans les cas où la sécurité est vraiment en jeu, s'il y avait un ordre d'évacuation, il faudrait reloger les locataires. Et évidemment, on n'a pas encore parlé de la régie du logement où les délais pour les propriétaires et pour les locataires sont excessivement longs.
Harold, avant la pause là-dessus.
Le règlement municipal dont parlait monsieur tantôt, il a tout à fait raison.
C'est
un très, très beau règlement municipal. C'est son application qui fait défaut. On n'a pas assez d'inspecteurs et on n'a pas une procédure d'application pareille partout à Montréal. Selon que tu es dans un arrondissement ou dans un autre, il y a une application différente. Et finalement, on n'a pas coordonné tout ça. Et ça changerait déjà beaucoup de choses. Plus d'inspecteurs, puis je veux dire, une application de la réglementation bien structurée. Ça changerait tout, d'après moi.
Bon, on va s'arrêter ici. Après la pause, on va parler d'une dame qui a été propriétaire d'un édifice de 4 logements à Verdun avec un locataire qui y vivait depuis 25 ans. Vous allez voir, là. C'est pas évident, cette histoire-là. Puis on va comprendre un peu plus comment on se sent quand on est propriétaire face à des locataires qui sont particuliers. Ça, c'est une cause. Il y en a plein d'autres. Et puis, on va ouvrir les lignes pour vous demander ce que vous avez vécu. J'aimerais s'entendre des deux côtés, des propriétaires, des locataires. Dites-moi un peu comment vous vivez ça. Et je reviens avec ma question. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait qu'un logement est insalubre? Est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on se met... On s'est dit, on se mêle-tu de nos affaires, nous autres, quand... Quand il y a des enfants dans des endroits comme ça, moi, je me dis, il y a un problème. Il y a un gros problème. 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre partout. C'est une problématique partout au Québec. 1-866-790-9850. On parle d'insalubrité des logements, entre autres dans les grands centres, dont Montréal. C'est un problème criant. On essaie de savoir un peu... Est-ce que c'est plus la faute des locataires, des propriétaires? Bon, en même temps, comme disait mon invité Harold Lévy, à un moment donné, c'est des solutions aussi qu'il faut. On a parlé de la responsabilité des villes, responsabilité qui, parfois, elles n'arrivent pas à mettre en pratique avec des vraies mesures. Souvent, c'est le nombre d'inspecteurs en partant qui fait défaut. Il n'y en a juste pas assez pour être capable d'appliquer des règlements municipaux. On a avec nous June Lemire, qui a été propriétaire d'un immeuble de 4 logements à Verdun, avec, entre autres, des locataires qui vivaient depuis plus de 25 ans. Bonjour, Madame Lemire.
Oui, bonjour.
Racontez-moi un petit peu votre histoire, qu'on comprenne bien. Là, c'était quoi la problématique que vous viviez, vous?
Il y avait un homme de 75 ans qui vivait dans un appartement depuis un logement depuis au-delà de 25 ans. Et il vivait là avec sa conjointe. Au moment où sa conjointe est décédée, au printemps 2013, bien la santé de monsieur s'est détériorée. Je crois que c'est madame qui s'occupait beaucoup de monsieur. Donc, ouais. Sa santé physique, son hygiène corporelle énormément, ainsi que la propreté automatiquement du logement.
Ouais.
Alors, en gros, c'est ce qui arrivait. Et monsieur souffrait d'incontinence, donc assez rapidement, était à mobilité réduite aussi. Donc, rapidement, il ne pouvait pas se rendre à bon port, à la salle de bain pour...
Il faisait ses besoins partout, en gros, c'est ça?
Partout, surtout dans la chambre et cuisine et la salle de bain. C'était là surtout, c'est qu'il il urinait dans des espèces de contenants de crème glacée qu'il laissait un peu.
Ouais. Et vous, ce qui vous a alerté, c'est que les autres locataires que vous aviez faisaient des plaintes, ils se plaignaient, ça sentait mauvais, hein, ça sentait.
Oui, effectivement. Les locataires à côté de chez monsieur ainsi que sous lui. Le locataire qui habitait sous lui là, se plaignait de l'odeur et se plaignait aussi, monsieur avait quand même une personnalité, avait un caractère assez grossier, donc se plaignait de l'insalubrité et aussi de la personnalité de monsieur.
Ouais. Là, vous avez essayé comme propriétaire de lui expliquer qu'il fallait qu'il fasse ses besoins dans les toilettes, ça marchait pas, donc finalement, vous en êtes venu à dire, ben là, il va falloir qu'il s'en aille, et ça a été très compliqué, hein?
J'ai commencé à faire affaire, j'ai tenté d'appeler le C3S de la région pour avoir de l'aide de ce côté-là, parce que j'avais rencontré une infirmière qui allait le voir régulièrement et elle m'avait mentionné qu'ils étaient au courant que le logement était insalubre. Ils étaient quand même au courant de la situation de monsieur. Moi, j'avais déjà fait des démarches auprès de la régie du logement pour voir ce qui pouvait être fait de ce côté-là. Et j'ai demandé à cette infirmière-là si elle pouvait me donner... elle avait une preuve écrite, que le logement est insalubre. Donc, je disais, est-ce que je peux avoir une copie de ça ou est-ce qu'on peut aider monsieur d'une certaine manière?
Ouais.
Et la réponse du CLSC en question a été, écoutez, madame, le client, c'est monsieur, c'est pas vous. Vous avez affaire avec la régie du logement et non pas nous.
Ah, oh, mon Dieu, c'est le client. Mais le client, il se plaint pas, là. C'est incroyable.
Le client était seul. Le client n'avait pas de famille. Il avait une fille, supposément, qu'il n'avait pas vue depuis 30 ans. Mmh. Donc, il était en perte d'autonomie. Il n'avait pas vraiment quelqu'un pour...
C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, là, clairement. Là. C'est un vieux monsieur qui a besoin d'aide, qui était tout seul dans la vie. Vous avez appelé donc le C3S, les pompiers, la police, je pense, Mme Lemire aussi. Vous avez payé pour faire le ménage, finalement.
J'ai payé pour faire le ménage, oui, quelques fois.
Puis après ans de démarche... vous avez réussi à faire évincer monsieur, mais savez-vous où il s'est rendu, ce monsieur-là? Ou ce qui a fini par aboutir?
La journée qu'il a été évincé, c'est sûr qu'il y avait une ambulance qui l'attendait. Parce qu'il y a des travailleurs sociaux dans ce dossier-là. Donc, il y avait une ambulance qui l'attendait pour l'amener à l'hôpital parce qu'il était. C'est sûr qu'il était incapable de se trouver un autre logement. Et il aurait été. Il est allé à l'hôpital et est décédé 3 mois plus tard.
Votre expérience, évidemment, c'est épouvantable quand on est propriétaire, qu'on doit vivre ça, parce que j'imagine que vous avez eu l'impression de porter toute la cause, tout le dossier de ce pauvre monsieur sur les épaules. Vous vouliez l'aider, puis en même temps, vous aviez, vous, une problématique comme propriétaire avec 3 autres locataires qui se plaignaient. Votre conclusion, c'est que finalement, il était laissé à lui-même. Là. Et on vous a un peu reporté la responsabilité de le gérer à vous, qui était juste la propriétaire du logement, dans le fond. Là.
Effectivement, je ne sais pas ce qui aurait pu être fait au niveau légal, au niveau du système de la santé, mais c'est sûr que cette personne-là ne pouvait pas rester dans un logement. Ouais. Puis, en tant que propriétaire, ben moi, je devais me diriger vers la régie du logement, et là aussi, c'est long et pénible. J'ai dû avoir un avocat qui m'a aidé dans cette situation-là, ça a coûté très cher. J'ai commencé mes démarches au niveau de la régie du logement début 2014, et j'ai passé été 2015. Donc,
tu penses que vous l'avez vendu depuis?
Oui, pas à cause de ça, par exemple, mais oui, j'ai vendu par la suite.
Merci. Merci beaucoup, Mme Lemire, de nous avoir parlé. Harold Lévy, vous envoyez de plus en plus des cas comme ça. C'est des personnes âgées qui sont toutes seules.
Il y a un mot que vous avez dit tantôt qui est la clé de tout ça. Dans cette histoire-là, tout le monde avait besoin d'aide. Ouais. Le locataire avait besoin d'aide, la propriétaire avait besoin d'aide, et cette aide-là n'était pas là. Non. Que ce soit au niveau des travailleurs sociaux, de la ville, etc. Et le vrai problème, il est facile. Le communautaire aussi qui a été coupé, parce que souvent, ces gens-là, c'était eux qui finissaient par être capables de les aider. Tous ces coupures-là qu'on a fait partout, c'est ça le vrai problème.
Ouais, mais il y a un fonctionnarisme aussi, le dire. Quand la dame qui appelle, qui dit « Comment je peux aider cette personne-là? » C'est un vieux monsieur, visiblement, il n'est pas tout là, il est tout seul en plus, il n'y a pas de famille, il n'y a personne. Comment je peux l'aider? On dit, ben c'est pour vous le client, c'est lui le client. Qu'est-ce que c'est ça, cette réponse-là?
Hans? Oui, moi j'ai parlé au ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, et je lui ai dit, écoutez, ça là, c'est un problème qui va aller en augmentant. Avec le vieillissement de la population, s'il n'y a pas d'aide à domicile pour des gens qui ont besoin de faire du ménage parce que leur mobilité est très réduite, parce que des gens ont besoin d'avoir un suivi pour être sûr qu'ils prennent leurs médicaments. Si cette aide-là ne vient pas, les gens deviendront inaptes à vivre dans un logement privé.
Clairement.
Et on va judiciariser les cas. Ça va tomber dans les mains de la régie du logement.
Et des avocats.
C'est pas une aide, c'est pas la place. Donc, ça prend des ressources parce que ça va coûter encore plus cher à l'État s'il n'y a pas cette aide-là, une fois par mois, une fois par semaine, si ces gens-là quittent les logements, l'État devra leur trouver des ressources intermédiaires et ça va coûter beaucoup plus cher.
La dame vient de nous dire, elle a vu le papier qui disait, oui, on le sait, là, le C3S savait que le logement était insalubre. Mais si tu sais que le logement est insalubre, comment tu peux tolérer qu'il y ait une vieille personne qui vive là-dedans? Trouve-y des ressources, là, Maxime.
C'est franchement enrageant en tant que société qu'on se permette de garder des gens dans ces conditions-là.
Ouais.
Mais ça, je vais aller dans le même sens que M. Lebel. Ça dénote des années de coupures budgétaires dans les services sociaux. Puis c'est un grave manque aussi de logements sociaux adaptés avec des services pour ces personnes-là. Donc autant les personnes aînées, les personnes avec des besoins en santé mentale. Tout ça, il existe des possibilités de loger ces personnes-là à faible coût, avec des services qui soutiennent, qui vivent aussi dans une communauté. C'est aussi attristant de voir ces gens-là vivre tout seuls dans leur détritus, alors qu'ils ont besoin de gens autour d'eux pour les aider.
Mais en même temps, on peut dire qu'il part de son logement où il fait pipi dans des pots de crème glacée, puis il fait ses besoins... un peu n'importe où, puis on se ramasser dans un CHSLD où on y changera pas sa couche et où il y aura un maudit bain par semaine.
Mais s'il était parti avant,
deux, 4,30 sous pour une pièce, ça ressemble à ça, pas mal?
On est encore des coupeux.
Mais si ce monsieur-là était parti avant, qu'on l'aurait pris, il serait allé dans un logement social adapté, il aurait probablement pu vivre plus longtemps dans des conditions décentes, avoir une fin de vie digne de ce nom.
Oui, mais il n'a pas de logement social.
Bon, on a des cas aussi moins extrêmes.
Oui,
avec des accumulations de biens.
On va aller voir nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Toutes nos lignes sont pleines. On vous donne la parole tout de suite après ceci. On a Pierre avec nous. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Isabelle. Comment ça va?
Ça va très bien ce matin.
Est-ce que tu es assise?
Bien, tellement.
OK, ben reste assise, écoute bien, moi je vais t'expliquer, je restais sur les rubots bien, mon voisin il vendait de la cocaïne,
ouais.
Il a pris un divan, il l'a coupé en deux, puis il a mis le feu dans le cour avec ses amis en prenant une bière.
Ah ben.
Et là, j'avais de la neige dans mon appartement qui rentrait par la porte arrière, j'ai pris des photos de mon voisin, j'ai pris des photos de la neige, je suis arrivé à Régie du logement avec mon colocataire comme témoin. Et là, le juge, entre guillemets, il était en conversation avec mon proprio, mort de rire, il serrait la main. Et là, quand je suis passé devant le juge, j'en ai les photos, le juge a refusé de regarder les photos. Et j'ai perdu.
Mais vous étiez locataire, c'est ça que vous dites?
Oui, okay. Oui. J'ai dit, là, vous refusez les preuves. J'ai des preuves visuelles.
Mais vous alliez à la régie pour... Parce que vous trouviez que c'était au propriétaire à jeter dehors ce locataire-là qui était un peu spécial, c'est ça?
Il était spécial, puis j'avais de la neige dans mon appartement. Ma porte, elle fermait pas bien.
Oui.
Alors, imagine le chauffage que je payais chaque hiver.
Oui.
Alors, j'ai perdu. Le juge a refusé ma demande. Écoute, c'était assez particulier. Ouais.
Merci.
C'était chum avec mon propriétaire.
Merci beaucoup, Pierre. Bonjour, Madeleine.
Bonjour.
On parle d'insalubrité des logements. Vous avez été locataire, propriétaire. Racontez-moi un peu.
Non, moi, depuis 25 ans, j'ai 25 ans ma résidence.
Oui.
Et quand je suis venue dans la métropole pour mon travail, j'ai pris louer condo, option d'achat, appartement, relocation. Mais ça fait 25 ans, je n'ai jamais rencontré de propriétaire avec du respect.
Et
je suis une personne universitaire, un travail, bien payé. Même si je payais bien, on me disait que c'est pas tout payé. Parce que c'est un genre, plus tu es parfaite, c'est l'inverse de la médaille, madame. Plus tu es parfaite, plus les autres te trouvent ça montre le niveau de ceux qui habitent avec eux, même si j'ai pris de 600 $ jusqu'à 1 200 $, madame. Il n'y a rien à faire. Désespéré. Je vais écrire un livre sur ça prochainement.
Ouais. Ben oui. Parfait. Ben merci. Merci beaucoup. Alain, bonjour.
Hey, bonjour, madame Maréchal. Ça va bien?
Oui, allez-y, on vous écoute.
OK. OK, moi, là, j'ai une histoire d'horreur. Moi, là, je m'appelle Alain. Je suis un vieux bonhomme en chaise roulante. Je suis grognon. Je reste dans un HLM présentement, là. Le HLM, là, c'est l'humidité au bout, les moisissures extrêmes, les planchers sont pourris à grandeur, les murs sont renfoncés, je suis malade, ça fait 27 mois que je reste, ça fait 27 mois que j'en arrache. J'ai fait une plainte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils ont coupé les coins ronds, ils ont rentré chez nous, puis ils ont dit, ben non, gars, ton logement, là, il est trop humide parce que ta fenêtre est ouverte, puis les planchers, ils bougent pas parce qu'ils sont sur du revêtement de sol. Présentement, là, je défie n'importe qui dans la ville de Montréal, là, je peux te donner mon adresse. Moi, je reste là, je suis enfermé, je suis séquestré. J'ai aucun recours, je suis discrédité, puis ils veulent me faire avaler à couleuvre. Mmh. Ça, c'est une vraie histoire, là, direct là.
Ouais, ben, je comprends que vous soyez grognon à vivre dans un logement comme ça, Alain. Ben... Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. Harold Lévy, la vie en HLM, là, comment ça fonctionne? Les HLM, c'est responsabilité de la ville?
Oui, mais... comme pour tout le reste de ce qu'on parle tantôt, il y a eu plein de coupures qui fait que c'est pas nécessairement ce que ça devrait être. Il faut pas oublier que les HLM ont les locataires qui ont le plus de difficultés finalement. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale, etc., il y en a un paquet que c'est là qu'ils se retrouvent. C'est des logements beaucoup plus difficiles à gérer. Et finalement, dans les HLM, on a beaucoup de présence d'insectes, beaucoup de présence de rongeurs, etc., fréquemment dans des logements.
Donc la ville est mauvaise propriétaire aussi.
Est-ce que c'est ça? Ce que je peux dire, c'est que je retrouve autant de problématiques d'insectes, qui sont mes trucs à moi, là, d'insectes entre autres, dans les HLM que chez le privé, sinon plus. Mais est-ce que c'est une excuse ou pas? Je suis pas prêt à trouver des excuses, mais ils ont quand même une clientèle un peu plus difficile. Assez difficile.
Vous me parliez d'ailleurs pendant la pause du cas de cette infirmière qui se rendait, mais en fait, elle rentrait même pas dans le logement. Elle restait dans le corridor parce qu'elle voulait pas rentrer. Il y avait plus de 30 000 punaises de lits dans ce logement-là.
On a fait un documentaire là-dessus qui va paraître quelque part en mai ou en juin. Là, il y avait 500 punaises sur son oreiller.
Ah.
Le gars, quand il nous voit, il y en a 150 sur lui. Et c'est pas un
Mais il devait être piqué, ce monsieur-là?
Incroyablement. Et ça,
mais il s'en rendait pas compte qu'il était piqué par des punaises?
Oui, mais il savait pas. Il était pas à de jet. C'est d'ailleurs la grande problématique des punaises pour les années qui viennent. C'est qu'il y a de plus en plus de gens laissés à eux-mêmes qui sont incapables de gérer ce genre de problème-là. Et là, ils s'infestent d'une façon incroyable. Ils infestent tout le reste de la maison. Et deviennent, en plus, imaginez-vous comment ils étaient traités par le reste de l'immeuble. Parce que tout le monde le détestait, le pauvre gars. Finalement, j'avais envie plus de le prendre dans mes bras que de lui donner un coup de pied au cul, lui, parce que je veux dire, c'est un pauvre malheureux qui était pas capable de sortir de ce problème-là. Mais ça, on voit ça de plus en plus souvent. Et quand on essaie
évite de les prendre dans nos bras parce qu'il y a 150 punaises dessus,
de
là.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Vous, quand vous arrivez chez vous, comptez-vous les punaises? Non. J'imagine que...
Mais quand on essaie de faire quelque chose pour aider ces gens-là, ça débloque toujours sur le rien.
L'infirmière, elle savait?
Ça m'a choqué, je ne savais pas comment. Je disais, l'infirmière le savait. Et ce cas-là, là, je pourrais vous le multiplier au moins par 4 ou 5 juste dans le dernier mois. De gens là, qui étaient infestés d'insectes et de toutes sortes et qui avaient des infirmières, des travailleurs sociaux, etc., qui passaient là. Et on n'a rien fait. Sa job, c'est de s'occuper de sa santé. Je pense que, mais il faut dire que les infirmières qui sont là, ils ont peur, eux autres aussi. Ils sont complètement effrayés par le problème de punaise. La santé publique, le docteur Perron, qui est quelqu'un d'assez bien, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Le docteur Perron, il a réussi à faire à Montréal que les punaises étaient un problème de santé publique. Vous savez pourquoi? Par rapport à des refus d'agir. Plein de gens qui ont besoin de soins, qui n'en avaient pas parce qu'il y avait un problème de punaise. Et c'est sûr qu'un problème de punaise majeur, là, il y a des endroits, c'est des milliers de punaises. Ça, les gens de la misère comprennent ça, je vous jure que c'est vrai. Et ouais. Le propriétaire qui a ça, lui aussi, a un méchant problème parce que son immeuble va être infesté. Puis ça va être extrêmement complexe à régler parce que ça fait longtemps, souvent, quand on s'en rend compte. Tout le monde est un... Mais le vrai problème, au départ, c'est quoi? C'est qu'on laisse ces gens-là sans qu'ils aient de l'aide.
On parlait non, mais c'est sûr que tu vis dans une maison où il y a 30 000 punaises, c'est sûr que ça affecte ta santé. Ça donc, en théorie, l'infirmière ou le travailleur social ou la personne qui te visite doit le marquer dans son maudit rapport. Est infesté de punaises. C'est pas normal.
Mais souvent, ils vont dire qu'il y a un espèce de devoir de discrétion face à leur... et qu'ils peuvent pas le faire. Il y en a que c'est ce qu'ils nous disent. Il y a toutes sortes de raisons, mais la vraie raison, c'est qu'il...
C'est que personne veut s'occuper de ce monde. Voilà. C'est ça la vraie raison.
Un problème de,
Hans Brouillard?
Ouais, c'est un problème de santé publique.
Parce que là, on parle de
ça.
Ouais.
Et la Corpic, nous, on a demandé au gouvernement de dire, écoutez, là, ça déborde... c'est pas un immeuble, c'est pas une ville... C'est beaucoup plus global. Ça prend des budgets pour lutter contre un fléau qui est à une échelle d'État, là. Alors, malheureusement, c'est une fin de non-recevoir. On nous a clairement dit, ben, écoutez, c'est le problème des propriétaires, c'est à vous de payer pour... Mais oui, mais le problème va pas s'enrayer de lui-même. Si les gens fréquentent des lieux où il y a des punaises, ils vont en ramener à la maison. Donc, on règle le problème à un endroit, mais il revient d'ailleurs de toute façon.
J'ai Daniel qui m'écrit, il travaille dans un HLM à Longueuil comme concierge. Il dit, la clientèle est souvent incapable de s'occuper d'elle-même. C'est un peu ce qu'on dit, donc il confirme. Il dit, heureusement, il y a quand même des ressources qui sont fournies par notre HLM pour aider ces gens-là. On a un peu de communautaire, un peu de service d'extermination. Mais c'est sûr qu'en général, les HLM n'ont pas les fonds nécessaires pour faire le travail qui doit être fait, les réparations et quoi que ce soit. Donc, on n'a pas le temps de parler à James avant la pause. On le fera après la pause. Restez là, tout le monde. On parle d'insalubrité pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Insalubrité des logements, problèmes d'insectes, de punaises de lit, de coquerelles, de moisissures, de tout ce que vous voulez... Ça va pas bien, puis ça sent mieux de pas. Au contraire. Beaucoup de problématiques aussi de santé mentale qui se rajoutent à la solitude. On le dit. Vous savez, quand vous lisez dans les quotidiens, dans les journaux, qu'on le dit, nous, ici, à l'émission, une personne sur deux vit seule. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est que c'est ça que ça donne. Quand t'es tout seul, puis qu'à un moment donné, tu vieillis, tu perds la carte, et t'as personne pour s'occuper de toi pour te dire « Ça va-tu bien ce matin? » Qui demande ça au monde, là? « Ça va-tu bien? » T'as-tu besoin d'aide? Même les travailleurs sociaux, ils n'ont plus le temps de le faire. Je pense que tout le monde est un peu comme... C'est le pilote automatique. On dit, ben c'est de même, ça marche. Ah, c'est pas ma responsabilité. James, votre opinion là-dessus?
Bonjour, Mme Maréchal.
Bonjour.
Moi, je parle au nom des bons propriétaires, parce que c'est dans mon cas. J'ai récupéré un appartement, justement, hier soir, après une éviction, un avis non-paiement de loyer. Là. Puis, je peux vous inviter l'adresse, et puis venir visiter, puis vous allez voir comment l'appart a été rendu, puis comment sont entretenus les autres appartements. Là. Donc, je nie pas qu'il y a de l'hygiène et puis de l'insalubrité ailleurs. Mais c'est pas, faut pas mettre tout le monde un peu dans le même sac un peu là. Puis plus en plus on est rendu au niveau GSBT avec les punaises là où les locataires affichent les chambres sur Airbnb. Puis dès qu'on a aucun contrôle là-dessus et puis les punaises de lit là, c'est pas une question aussi de insalubrité. Il y a tout ça qui se met là et puis c'est très dur même à propriétaire à pouvoir gérer ça. On est les mains à pieds liés, faire un peu comme en Europe avec les cautions, et puis un peu, je pense, sensibiliser les gens, arrêter de les assister aussi un peu, je pense. Et puis, puis reprendre tout ça un peu. Là, on a fait toute l'étape de la régie, là, c'est un chemin de croix, là. Il faut être fort pour faire ça.
Ah non, c'est sûr, c'est sûr.
C'est très dur, c'est ça.
Vous aviez combien? Vous aviez un triplex? Vous aviez quoi?
Un six-plex sur le plateau, là. Puis justement, je l'ai récupéré hier, puis je suis arrivé, puis je suis découragé. Je suis découragé, presque. Ouais. Et puis, c'est pour ça qu'on a envie de presque tout vendre, et puis après, qu'ils disent, il n'y a plus assez de locatifs sur Montréal, mais ça décourage les gens. c'est très dur d'être propriétaire, surtout si on n'est pas manuel. Je suis chanceux d'être un peu manuel, puis de pouvoir faire mes rénovations, mais sinon, c'est un casse-tête, pas possible.
Ouais, merci beaucoup, James. Carl, votre opinion là-dessus, sur ce problème d'insalubrité des logements?
J'aurais deux histoires à vous raconter. Moi, je suis propriétaire d'un immeuble à 4 logements.
Ouais.
Je vous dirais, je reste dedans et la plupart du temps, j'imagine, parce que je connais d'autres personnes qui ont des immeubles à logement. Quand le propriétaire est dans un immeuble où il où lui-même réside,
c'est moins
facile,
pire.
Je vous, ouais. C'est mm-hmm. moins pire. Je vous dirais, moi, quand je sélectionne mes locataires ou mes futurs locataires, c'est sûr qu'il y a des enquêtes qui sont faites. J'ai un règlement d'immeuble, je vous dirais, quand les gens regardent mon règlement d'immeuble, ils me disent tout, un règlement d'immeuble en béton, ils sont beaucoup encadrés. Je voudrais que de temps en temps, quand mes locataires s'en vont, ben, les gens, c'est sûr, c'est pas leur propre logement, donc ils font un petit peu moins attention. J'en ai une, à un moment donné, qui est partie, elle m'a laissé des trous à chaque clou qu'elle avait mis dans son logement. Ça m'a coûté 500$ pour refaire plâtrer puis peinturer. Puis, je vous dirais, règle générale, c'est bien. En tout cas, moi, je pense que pour les petits logements, c'est bien. Par contre, je vous dirais où est-ce que je suis. L'autre histoire, c'est l'histoire d'horreur. Je vous dirais, il y a des propriétaires aussi que il y aurait quelque chose à faire. J'ai un problème depuis 5 ans, depuis l'aise de lit, avec un propriétaire qui est à côté du mien, de mon logement. Lui, ça son
immeuble. Ah ouais, le mur mitoyen, là, vous partagez mur, j'imagine.
Ouais,
ah,
puis,
ouais.
Puis je vous dirais que l'autre propriétaire qui est de l'autre côté, parce qu'on se parle, elle aussi, elle a eu le même problème. Puis la ville, avec le règlement, en tout cas, ça fait 5 ans qu'on a un problème, je suis obligé de désinfecter constamment. C'est horrible. Il y a des déchets qui traînent. L'immeuble est à l'abandon. Ils mettent de la laine minérale dans les fenêtres pour calfeutrer. Il y a du va-et-vient. On ne sait pas c'est qui. On ne connaît pas les personnes. Les rideaux ne bougent jamais. Tu sais, c'est louche. Puis, vous savez, c'est une histoire d'horreur. Là, je pourrais vous raconter. À un moment donné, j'ai appelé la police. La police a été appelée. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Mais personne peut faire quelque chose. C'est ça, on en revient à ça. Merci, Carl, de votre commentaire. Plein de gens m'écrivent aussi, puis ils me disent, ben, avant, il y a Claire qui me disait, auparavant, les unités sanitaires s'occupaient avec autorité de tous ces problèmes. Ma mère, qui était infirmière pour cette unité, avait le pouvoir de placarder une maison pour éloigner les gens des personnes contagieuses. Bon, on ne veut plus de ce genre d'intervention autoritaire au nom de la liberté individuelle et du droit à la vie privée. Mais à un moment donné, il va falloir rétablir l'équilibre. Ça, c'est ce que Claire me dit. Claire vient de le dire. Personne n'ose faire quelque chose ou personne dit qu'il peut faire quelque chose. Maxime, là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, avec votre association? Là, vous êtes au regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec.
Je peux dire d'abord, il y a beaucoup de locataires qui nous contactent. Puis, je dis, si vous avez un problème d'insalubrité, vous avez contacté votre propriétaire, il n'y a rien qui avance.
C'est la régie, par exemple.
Vous pouvez venir nous voir dans un comité logement. On peut vous indiquer les démarches à suivre. Si vous habitez dans une ville qui a un règlement, bien, essayez de contacter l'arrondissement, la ville, pour faire venir un inspecteur. Et ensuite, il y a un inspecteur qui va venir visiter les lieux, qui pourra émettre des avis de non-conformité. Et ensuite, ça en suivra peut-être des constats d'infraction, etc.
C'est pour les locataires.
Mais ça, c'est pour les locataires. C'est dans les villes où il y a une réglementation.
Ouais.
Il y a moins d'une vingtaine de villes au Québec qui ont une réglementation.
Moins
d'une vingtaine. Parce qu'au Québec, on n'a pas de code du logement. C'est quand même assez hallucinant.
Ouais.
Qu'il n'y ait pas les normes minimales en matière d'habitation. Qu'est-ce qui est les normes minimales en matière d'insalubrité des logements?
Pour le reste
des villes, les locataires doivent se tourner vers la régie du logement. Et on le sait, les délais sont extrêmement longs. En matière d'insalubrité, ça peut prendre des mois et des mois avant d'entendre.
On a-tu un ministre du logement?
On a une ministre.
Il y a une ministre maintenant, oui.
Mais je vous dirais, ça va être
disons, là, on est d'accord, le RECLAC, la CORPIC, ils n'ont rien fait. Là. Le gouvernement actuel n'a rien fait. La réforme de la régie du logement se fait toujours attendre. Ça a été pathétique.
Madame Lise Thériault, qui est la ministre responsable, était en poste depuis l'automne dernier. Elle affirmait beaucoup de volonté au début. S'ensuit, les élections arrivent, puis franchement, il n'y a rien qui s'est fait. Tout le mandat du Parti libéral en matière d'habitation, c'est un catastrophe.
Puis moi, vous avez dit à peu près 50 fois depuis une heure, il y a eu des coupures. Il y a quelqu'un qui me rappelait, plus qu'une personne, qui me rappelait avec justesse tout à l'heure, bien, des coupures, pas pour tout le monde. On a donné plusieurs milliards de dollars aux médecins en santé publique. On a peut-être coupé, mais c'est pas tout le monde qui a été coupé, visiblement. On n'aurait pas pu garder, mettons, je vais être conservatrice, un petit milliard, là, puis le mettre pour ce pauvre monde, là, qui vivent avec des punaises de lit puis des moisissures. Moi, ça me dépasse. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Harold Lévy, merci Anse Brouillette, merci beaucoup Maxime Roy-Allard.
Merci à vous.